week-end extra avec Mathieu Beaumont, votre magazine du week-end.
Week-end extra! En cette journée de la Saint-Patrick, on le sait, plusieurs d'entre vous sommes de descendance irlandaise. C'est une diaspora importante à travers l'Amérique du Nord, à travers le monde, il faut le dire. Et ici au Québec, quel rôle a joué cette communauté? Ici, on va en parler avec le professeur d'histoire à l'UQTR. Également, il est titulaire de la chaîne YouTube L'Histoire nous le dira. Également, auteur du nouveau roman historique qui est maintenant disponible, L'Homme de l'ombre, Laurent Turcot, est avec nous. Bonjour, Laurent.
Bonjour.
Parle-nous de l'importance, justement, de la communauté irlandaise ici au Québec.
Bien, les Irlandais sont quand même fondamentaux dans l'histoire du Québec, dans la manière dont on a pu s'établir ici. Je dis s'établir, mais on a souvent tendance à dire, ben oui, les Irlandais sont arrivés ici au 19e siècle avec la maladie de la pomme de terre qui s'est vécue en Irlande, qui a amené ici la Grande Famine. Mais c'est plus complexe que ça, mais plus encore, il faut retourner à l'époque de la Nouvelle-France. On a réalisé des recherches il y a quelques années, puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui ont traversé l'Atlantique à l'époque où la France, donc, avait le territoire ici. Et on a compté qu'à la fin du 17e siècle, 130 des 2500 familles installées ici étaient irlandaises. Ça veut dire que 5% des gens sont irlandais. Et il n'était pas rare que les gens qui traversent ici changent de nom et prennent une espèce de consonance un peu française, d'où la raison pour laquelle des fois des gens qui font leur généalogie, la généalogie de leur prénom, ben retournent en France puis trouvent aucune référence. Ben c'est parce que vous êtes irlandais. Donc c'est quand même assez fondamental quand on regarde les Premières Nations, quand on regarde la France, l'Irlande, les Britanniques, cette espèce de joyeux mélange. Et encore aujourd'hui, on a la présence irlandaise, j'ai envie de vous dire, à tous les jours sur le drapeau de la ville de Montréal. Il y a 4 grands symboles, maintenant le 5e avec les Premières Nations, et un de ceux-là, c'est le trèfle irlandais.
Oui, effectivement. Je sais que dans les noms ici au Québec, à l'époque, on disait le nom Aubry était d'origine, c'est une déformation du nom O'Brien, O'Brien si vous préférez, qui est un nom irlandais, qui avec le temps s'est transformé et devenu Aubry. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, de gens qui ont peut-être des noms comme ceux-là?
Ben, il y en a beaucoup aussi qui ont transformé leur nom, comme tu le dis, mais il y en a qui vont marquer durablement l'histoire du Québec. Juste pour t'en nommer quelques-uns, là, si je vous dis la taverne Joe Beef, ça vous dit quelque chose?
Oui.
C'est assez connu aujourd'hui. Mm-hmm. Ben, à l'époque, là, ça a été fondé en 1860 et un de ceux qui l'a fondé, c'est Charles McKiernan. Lui, il a pas changé son nom, là, par exemple, mais il a quand même pris le nom de Joe Beef parce que c'était plus universel. Joe Beef, là, fin du 19e siècle, c'est considéré comme le centre de tout. Lui, c'est un maître cantinier. Il arrive à Montréal en 1868. Il ouvre ça, ça fonctionne. Mais il ne faut pas juste ouvrir un restaurant. Il va ouvrir un hôtel, puis il va même faire une espèce de ménagerie au sous-sol. Donc, au sous-sol de sa taverne, là, on pouvait voir des singes, des ours, des pigeons, des renards.
Ah ouais.
Donc, pour lui, c'était vraiment fondamental là, d'avoir ce côté très, très divers qu'on pouvait avoir avec la ménagerie, justement. Donc, c'est assez crucial.
On a parlé, tu as fait référence brièvement en ouverture de la grande famine irlandaise. On dit que c'est la période où les gens ont pu quitter massivement ce pays pour aller s'établir un peu partout dans le monde. À preuve, c'est que la population irlandaise de ce moment, le pays n'a jamais atteint les mêmes niveaux de population dès la grande famine passée. L'année serait 1847, où la majorité d'entre eux seraient venus ici, entre autres, en majorité?
Oui, ils sont venus ici en majorité, mais le problème, c'est que justement, c'est qu'ils quittent l'Irlande à cause de la maladie de la pomme de terre. Ils arrivent ici très malades. Donc, on se dit, hey, là, ça marche pas. Et les méthodes pour connaître et encadrer les gens qui sont malades, par exemple, du choléra ou du typhus, ben c'est la quarantaine.
Oui.
Et on va dire, on va pas faire des quarantaines en ville, à Montréal ou à Québec, c'est trop dangereux. Donc, on va développer les grosses îles et tous les bateaux qui arrivent d'Irlande devront s'arrêter, décharger. Quand je dis décharger, c'est les mots qu'on utilisait à l'époque, là. Les Irlandais, donc, sortent, restent là pendant 40 jours, et s'ils survivent après les 40 jours, là, ils ont le droit d'entrer sur le territoire. On s'entend que je dis survivre parce que ce sont des véritables mouroirs. Déjà, c'est extrêmement compliqué de traverser. On appelait les bateaux, des fois, qui traversaient des grands cercueils. C'est vous dire si c'était compliqué. Et en plus, quand on débarque ici, là, on n'a pas le sou. Et les Irlandais qui débarquent dans les années 1850-1860, c'est du cheap labor. On va les utiliser pour creuser le canal de la Chine. On va les utiliser pour construire le pont Victoria. Bref, c'est véritablement une population flottante. Et ils vont être en lien avec l'autre cheap labor à la même époque, qui sont les Canadiens français. Et les Irlandais et les Canadiens français vont avoir énormément bien à cause d'un élément qui est leur tronc commun, qui est la culture catholique. les Irlandais sont catholiques, contrairement aux Britanniques qui, eux, sont anglicans. Donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'à la fin du 19e siècle, les Britanniques pratiquent beaucoup un sport qu'on appelle le hockey. Aujourd'hui, on le sait, là, on a l'impression que c'est nous qui avons tout inventé, les Canadiens français. Pas du tout. Au départ, c'est un sport britannique. Et comme les Irlandais sont pas loin des Britanniques, vont commencer à jouer au hockey, puis à un moment donné, il manque de joueurs chez les Irlandais, et ils vont se tourner naturellement vers leurs frères catholiques, qui vont être les Canadiens français. Donc, on est introduit au hockey par les Irlandais au Québec. C'est quand même un juste retour des choses assez intéressant quand on regarde ça.
Dans les autres éléments, est-ce qu'il y a des endroits où il y a où on peut dire ils se sont établis, où les grandes communautés, où c'est une population qui se dispersait? Tu disais, ils allaient vers où il y avait du travail, il y avait le canal de la Chine, ils venaient vers Montréal, il en restait quelques-uns au port de Québec aussi pour travailler, où ce sont des gens qui ont établi, il y a vraiment des poches là où il y a plus de la communauté irlandaise, québécoise, si on peut dire, qui s'est installée?
Ah ben, le grand centre, c'est sans doute Montréal.
Oui.
Pourquoi? Juste pour donner une idée, là, on va avoir bientôt la parade de la Saint-Patrick. C'est la 196e au Québec, à Montréal. C'est vous dire l'importance qu'ils ont eue. Donc, très vite, ils vont aller en ville. Il n'y a pas, contrairement à certaines autres communautés, de quartier irlandais comme tel. Parce qu'ils vont avoir une capacité beaucoup plus diffuse à aller dans tous les quartiers et à s'adapter, contrairement à d'autres. Donc, les Irlandais vont avoir leur cœur qu'il y a la fameuse Saint-Patrick. Mmh. Juste pour la petite histoire, là, on dit souvent que pourquoi est-ce qu'on a le trèfle comme le symbole des Irlandais? C'est parce que ça vient de Saint-Patrick, elle est au début du Moyen-Âge, là, qui lui voulait évangéliser l'Irlande et il voulait montrer aux Irlandais ce qu'était la Sainte Trinité. Puis il n'arrivait pas à leur faire comprendre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, il s'est baissé, il a accroché un trèfle, il y en avait partout en Irlande, et il a dit, écoutez, le Seigneur, là, c'est exactement comme ça, c'est comme votre trèfle. Donc, le trèfle qui est aujourd'hui le symbole des Irlandais, c'est ce qu'on a utilisé pour évangéliser l'Irlande et les éloigner du paganisme. Donc, ça ici, ça va très bien fonctionner. L'Église va, disons, s'accommoder des Irlandais, mais il va quand même avoir des différences de langue, parce que on s'entend que entre les Irlandais qui parlent anglais et les francophones qui, bien sûr, parlent français, ça va pas toujours bien se passer non plus. Il va y avoir parfois des batailles, ça finit mal dans les tavernes. Bref, la fameuse réputation des Irlandais qui sont bagarreurs, elle n'est pas née d'hier.
Laurent, en terminant, est-ce que l'on sait à peu près, ça pourrait ressembler à quoi le pourcentage de la population qui a du sang irlandais ici au Québec avec la mixité des époques? Tu as fait référence à des gens qui étaient arrivés au début de la colonie ici, mais aussi de jeunes qui ont été adoptés par des familles québécoises, qui ont même pris le nom de famille québécoise. Prendre un exemple, un petit garçon qui pouvait être un McCormick qui est devenu un Bélanger par la force des choses. Ça a changé avec le temps, mais on n'a pas de pourcentage là-dessus?
On en a, mais encore une fois, on n'a pas la totalité. On a quelques éléments. On est capable de dire que facilement 5% de la population a des origines irlandaises dans certains cas. Mais encore là, c'est à nuancer. Mais on arrive ça très facilement à isoler les grands personnages qui ont marqué l'histoire, qui, eux, sont de racines irlandaises. Par exemple, juste à Montréal, il y a eu 6 mères qui étaient de racines irlandaises. Et une des plus grandes chanteuses qu'on a eues ici au Québec, qui était la Bolduc, avait des racines irlandaises. Donc, ça fait véritablement partie d'un des viviers forts de ce qu'a été le Québec. Et on aurait tort de croire que tout vient de la Nouvelle-France, quoique, comme on l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure, là, comme je vous le disais, la Nouvelle-France, il y en avait déjà des Irlandais.
Et il suffit de prendre, par exemple, juste la musique traditionnelle québécoise pour comprendre les racines celtes aussi de cette musique-là. Merci infiniment, Laurent Turcot, d'avoir été avec nous.
Merci, M. Beaumont.
Merci, au revoir. Laurent Turcot est professeur d'histoire à l'UQTR. Sa chaîne YouTube s'appelle L'Histoire nous le dira. Et son nouveau roman disponible se nomme également L'Homme de l'ombre.